présenté par Eve Martha.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans l'Amphi, l'émission étudiante de Radio Alpa. Ce soir, on parle du groupe britannique Radiohead, mais surtout, je reçois Lisa Jubin-Bernard et Maëlle Zouarec-Truffier, qui font partie de l'équipe du festival Courte Échelle, festival national du court-métrage étudiant. On revient tous les trois sur cette 24e édition qui a lieu du 26 mai au 2 juin à Paris. Avant tout, on va écouter Catch This Fist de Wet Leg. Précédemment, je reçois aujourd'hui Lisa et Maëlle qui font partie de l'équipe du festival Courte Échelle. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Bonsoir.
Déjà, est-ce que vous pouvez un peu nous dire ce qu'est Courte Échelle ?
Oui, alors Courte Échelle, donc, c'est un festival de court-métrage étudiant qui a été créé en 2001 par l'association Télé Sorbonne, donc qui est un peu le média de référence des universités parisiennes. Et donc Courte Échelle a été créé en 2001, c'est un festival de court-métrage étudiant, on en a reçu plus de 660 cette année. Et l'idée, c'est que chaque année, on en projette un certain nombre dans les campus parisiens et dans les cinémas, notamment du Quartier Latin à Paris. Et en parallèle de ça, on fait des ateliers créatifs ouverts à tous les étudiants et également des tables rondes professionnelles pour permettre justement aux étudiants de faire le lien avec les professionnels du cinéma. On se veut vraiment être une porte d'entrée pour les jeunes réalisateuristes vers justement la professionnalisation et une forme de reconnaissance de leur travail.
Cette année, c'est donc la 24e édition, pardon. Tu l'as dit, le festival, il existe depuis 2001. Vous y participez depuis combien de temps ?
Moi, je participe au festival depuis 2 ans maintenant. L'année dernière, j'étais juste bénévole et j'ai participé en tant que responsable programmation. Et cette année, je fais un service civique pour... festival.
Moi, ça fait 3 ans, donc j'étais d'abord bénévole une première année. L'année dernière, je gérais plutôt les partenariats et les mécènes du festival. Et cette année, je suis donc coordinateur du festival avec Maqueta. Voilà, on coordonne une équipe d'une dizaine de personnes et 67 bénévoles qui nous accompagnent pour l'organisation générale du festival.
Tu parlais de Télé Sorbonne, qui est donc une association parisienne. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet asso et pourquoi est-ce que cet asso, elle a décidé à un moment de créer donc ce festival de court-métrage ?
C'est une asso donc, qui s'est créée en 1998, qui a d'abord commencé donc, dans les Sorbonnes et qui s'est un peu étendue depuis. L'idée de l'asso, c'est de pouvoir permettre aux jeunes étudiants de pouvoir créer des choses. Donc, on a un pôle podcast, un pôle cinéma, un pôle journalisme, entre autres. Et l'idée, voilà, c'est de pouvoir créer du contenu audiovisuel et de le partager au plus grand nombre, mais aussi de se former. Et dans la continuité de cette idée-là, d'être une porte d'entrée vers l'audiovisuel, on s'est dit que ce serait bien de faire un festival de court-métrage. Alors moi, j'étais pas encore né, mais en 2001, le festival a d'abord commencé à Sorbonne Nouvelle et après, il s'est étendu un peu partout. Pour la petite anecdote, un des premiers parrains du festival, c'était Vladimir Kosma. Et dès le début du festival, on a eu des grands noms du cinéma comme Mélanie Laurent en jury. Et là, cette année, on est très content parce qu'on a comme membre du jury, on a notamment Michel Oslo, mais aussi Toxin. On a pas mal de gens assez connus et on est content de ça. Et puis, on a comme marraine Lala Cinéma et Grande Bavardeuse. Ça incarne un peu notre volonté voilà, d'être plus qu'un festival de court-métrage, d'être vraiment un espace d'expression pour les jeunes. Et j'aime bien dire que pendant 7 jours, de fin mai à début juin, la capitale, elle sera justement une grande fête de la jeunesse sous le sceau du court-métrage.
Durant l'année, il y a d'autres projets de courte échelle et à part donc cette semaine en fin mai, début juin?
Oui, alors Télé Sorbonne, donc toute l'année on fait des projets sur les campus. Et courte échelle, ce qui se passe, c'est que dès septembre on fait des projets, c'est-à-dire qu'on commence par des reprises de palmarès. Donc sur tous les campus, on diffuse les films, on projette les films qui ont été primés. Mmh. Et puis on continue aussi avec des ciné-goûtés qui sont initiés dès l'appel à films du festival en janvier. Et les ciné-goûtés, ça permet aux gens de venir voir les films qui sont en sélection officielle. On a un qui ont été reçus. On a un comité assez large de gens, justement d'étudiants, qui viennent voir les films, qui les notent, et ça nous permet ensuite de faire une sélection des films. Donc voilà, il y a à la fois les ciné-goûtés, les reprises de palmarès, et on fait aussi des stands sur les campus universitaires pour pouvoir présenter le festival, pour pouvoir recruter des bénévoles, et pour pouvoir aussi recruter les jurys Nouveaux Regards, qui sont donc un jury composé d'étudiants cinéphiles, mais pas forcément en études de cinéma, même pas du tout d'ailleurs, et ça permet de vraiment rendre le festival plus accessible et plus ouvert à toutes et à tous.
La sélection de courts-métrages, elle se passe donc que par des ciné-goûtés, parce que la saison dernière, j'ai pu lire que vous en aviez reçu plus de 500. Pardon. Là, cette année, tu parles de plus de 600. C'est vraiment que par ces organisations de ciné-goûtés que vous sélectionnez les courts-métrages ?
Non, on fait aussi sur un système de... On a une plateforme qui s'appelle FilmFest, où on recense tous les films. Et la majorité, en vrai, des notes qu'on donne au film, ça se fait généralement chez nous. On donne accès à un Google Form où les gens les bénévoles notent leurs avis via ce Google Form. Et après, ça fait un calcul automatique de moyenne. Et nous, avec une équipe plus restreinte et qui a vu massivement les films, on choisit les films avec les meilleures moyennes et qui nous semblent en adéquation avec ce qu'on aimerait voir du festival. Et pour que il y a un aspect plutôt, on essaie de rendre les choses plus équitables et de pas prendre que des films d'école ou que des films d'une certaine école. Et voilà.
Et deuxième question dans ma question, c'est donc un festival national du court-métrage étudiant. Est-ce que tous ces courts-métrages, ils doivent avoir été réalisés par des étudiants ?
Oui, c'est ça. Il faut que ces courts-métrages aient été réalisés par un étudiant pendant le tournage. Il doit avoir le statut étudiant lors du tournage.
Ce qu'il faut savoir, c'est que dans l'équipe du réal, il peut y avoir des gens qui ne sont pas étudiants, c'est même souvent le cas. Mais étant donné que nous on travaille avec les facs, c'est vrai que voilà on a dans notre règlement l'idée que le réal il doit être encore étudiant, mais c'est pas un festival parisiano-centré parce que on reçoit majoritairement des films de toute la France et de toutes les écoles et même d'ailleurs des gens qui sont pas en école et c'est pas un critère de sélection d'être en école pour nous. Il faut juste être dans une université ou inscrit dans une université ou une école française, mais sinon on reçoit des films de partout. C'est pas parce qu'on est à la FEMIS qu'on sera plus pris que quelqu'un qui a fait son film en indépendant. Ce qui compte, c'est pas ça pour nous.
Ouais. Et surtout, ce qui est important de noter, c'est que nous, on donne accès aux réalisateurs à la plateforme FilmFest et que L'envoi du film n'est pas payant, donc ce qui aide les étudiants qui n'ont pas forcément les moyens de participer à un festival, dans un festival.
Oui, donc n'importe qui d'étudiant, en fait, peut se lancer, quoi.
C'est ça.
Et c'est quoi les différents types de courts-métrages que vous pouvez recevoir, du coup ?
Donc nous, on a 5 catégories. On a la catégorie fiction, documentaire, animation, expérimentale, et depuis 2 ans, nous avons la catégorie clip.
Et donc c'est un festival dans lequel on remet des prix. Les prix, ça rejoint les catégories dont tu parlais ?
Oui, en fait, on a 5 prix pour chaque catégorie. Donc, un prix professionnel décerné par des professionnels du milieu. Les professionnels décernent aussi un prix technique qu'eux choisissent. Quel type de technique ? Donc, ça peut être le décor, la réalisation artistique, etc. Même le montage. Et après, on a le prix du jury Nouveau Regard. Donc, il y en a 5 en tout. Donc, 5 pour chaque catégorie. Un pour chaque catégorie. Et on a aussi le prix du public qui a lieu pendant les projections de semaine du festival et le prix de l'équipe du festival.
J'ai pu lire, et puis Maëlle en a parlé tout à l'heure, que cette année, Michel Oslo fait partie du jury. Pour situer un peu, Michel Oslo est à l'origine de Kirikou, Azur Asmar ou encore Prince et Princesse. Comment ça se passe, la sélection du jury ? Est-ce que vous allez chercher justement des personnalités qui vous parlent ? Comment ça se passe ?
Eh bien, c'est au début de l'année, on discute de nos envies, de personnes qui nous parlent, et après c'est du démarchage envers les équipes techniques ou les réalisateurs ou les réalisatrices, et généralement ils répondent souvent, et c'est un peu rassurant de voir ça, parce que même si on reçoit des refus, c'est toujours agréable de savoir qu'on a eu une réponse. Ouais. Des jurys, et sinon en fait on fait avec nos carnets d'adresses où chaque année en fait les équipes changent, donc les carnets d'adresses varient et nous on garde même ceux des années précédentes, et il y a des jurys qui avaient répondu négativement l'année précédente et qui pourront être disponibles pour les futures années par exemple, et sinon c'est on démarche les jurys par mail et on voit avec eux.
Pour le cas des jurys qui sont plutôt étudiants, c'est un appel à candidature ?
Oui, c'est ça. Alors, dans le jury professionnel, il y a quand même, sur les personnes qui le composent, il y a en général une personne qui est en voie de professionnalisation, donc qui a été étudiante. Mmh. Et ça, c'est important pour nous quand même de garder cet aspect, parce qu'on reste un festival étudiant. Et donc, montrer qu'il y a des gens qui ont été étudiants, qui deviennent professionnels, ça, c'est important. Et concernant le jury Nouveau Regard, c'est un appel qu'on fait. Donc, en général, c'est sur Instagram, puisque c'est notre cœur de cible, et pendant les différents sur les campus universitaires. Donc, on recrute 5 étudiants, étudiantes, qui sont étudiants, donc cinéphiles, pas forcément, même pas du tout en cinéma, comme je disais. Mmh. Là, on a un étudiant en mathématiques, par exemple, on a un étudiant en communication, une étudiante en langue, mais c'est des gens qui sont cinéphiles, qui ont ce même amour du cinéma et qui, donc, sont à même de voir des films, qui en regardent énormément, qui sont à même de les juger et qui vont apporter aussi un regard singulier par rapport au jury pro. Et c'est aussi l'occasion d'échanges fertiles, de rencontres. Voilà, je pense que c'est important quand même d'avoir ce jury Nouveau Regard, en sachant que, comme je l'ai dit, le seul critère de sélection pour nous, c'est leur cinéphilie et leur profil artistique de manière plus globale, quoi. Il n'y a pas de prérequis en termes d'études.
Et cette année, encore une fois, Maëlle, je rebondis sur ce que tu disais plus tôt. Les marraines donc, sont Grande Bavardeuse, puis Lala Cinéma, qu'on peut connaître sous ce nom-là sur les réseaux sociaux. Pareil, comment vous les avez choisies, ces deux personnalités, et puis pourquoi elles ?
Nous, on a beaucoup réfléchi. C'est un choix plus compliqué, je pense, que le choix des jurys, parce que les marraines, c'est des personnes qui représentent le festival et qui portent vachement le festival. Donc, l'idée de marraine, c'est de mettre en lumière le festival. Donc, on les invite généralement à présenter une carte blanche sur la scène du festival et aussi de les interviewer et de mettre en lumière, donc de partager nos événements et le festival en général. Donc nous, on essaye de trouver des profils plutôt qui se rapportent au cinéma, évidemment, mais aussi des personnes qui parlent aux étudiants et qui ont une influence en fait, auprès des étudiants pour qu'on puisse donner la parole au festival à un maximum d'étudiants, mais aussi de personnes en général.
Mis à part les projections, vous organisez une exposition, des ateliers, un marché des créateurs RIS. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, alors l'idée, c'est qu'effectivement, ce soit pas juste un festival de courts-métrages. On aime bien aussi que ce soit un espace pour les étudiants et par les étudiants, donc avec vraiment à la fois cette exposition dont tu parles, qui est une nouveauté de l'année dernière, initiée par l'année dernière, pour pouvoir exposer des créations étudiantes. Voilà, cette année, le thème, ce sera la nuit. Et donc, on aura des œuvres autour de cette thématique faites par les étudiants. Et c'est souvent, que ce soit pour les projections ou pour l'exposition, c'est toujours une fierté pour nous de voir qu'il y a des gens qui n'ont jamais pu exposer, qui n'ont jamais pu voir leur film projeté, de le voir projeté sur le grand écran, de pouvoir échanger avec des, avec le public. Pareil pour l'exposition, d'avoir leurs œuvres imprimées, exposées. Voilà, je pense que c'est important pour eux et ça nous fait plaisir. Concernant donc les ateliers, il y a aussi, voilà, cette idée que, on peut faire des choses autour du court-métrage. Donc, on aura un atelier expérimental avec l'association Braquage, qui permettra de faire des expérimentations sur de la pellicule. On aura un atelier stop motion. Voilà, donc l'idée, c'est de faire aussi des ateliers créatifs. Et concernant le marché de créateurs, toujours cette même vision pour nous, c'est vraiment de donner la parole et de donner aussi de la visibilité à des jeunes créateurs étudiants. Et donc, voilà, il y aura ce marché de créateurs qui sera au Jardin 21. C'est un tiers-lieu, une friche culturelle à La Villette, donc au nord de Paris, qui nous permettra de à la fois faire ce marché de créateurs toute la journée, mais aussi une projection plein air. Et il y aura une table ronde et le tout sera placé sous l'aune de la maternité, de la place de la femme au cinéma, c'est la fête des mères, donc la place de la mère au cinéma, mais aussi avec l'idée de la place de la femme plus généralement au cinéma.
Et alors, toute cette semaine, ça va s'organiser comment, du 26 au mai au 2 juin du coup?
Donc nous, on organise 3 projections sur la semaine, donc la sélection officielle, en parallèle, 4 jours, on a 4 jours des projections officielles. Et en parallèle de ça, on essaye de faire des événements, donc plutôt des concerts sur les soirées et les ateliers plutôt sur les matinées du festival. Et un marathon, donc le samedi, sur toute la journée de 10h à 22h. Et notre journée sur le thème de la mer, donc le dimanche. Et le lundi, quelques projections, donc en partenariat avec Le Chien qui aboie, le collectif Le Grec. Et la carte blanche de notre marraine Lala Cinéma. Et le festival se clôturera avec la cérémonie le mardi soir. Et je crois que c'est tout. Au MK2, pardon.
Donc, tu le disais, vous investissez plusieurs lieux différents. Pourquoi une volonté d'une sorte de parcours? Enfin, pourquoi?
Parce que le cinéma et puis de manière générale, la vie étudiante ne se limite pas au campus et ça, c'est un truc qu'on a vraiment eu à cœur de développer ces dernières années. Donc, on investit tous les tiers-lieux qui sont fréquentés par les étudiants. Donc, comme l'a dit Lisa, il y aura aussi des concerts le soir, il y aura des tables rondes dans différents lieux. Le Jardin 21, c'est un lieu assez fréquent. Le vendredi soir, on aura le 88 Ménilmontant, qui est donc pareil, un lieu assez fréquenté par la jeunesse étudiante et la jeunesse en général. Voilà, donc il faut quand même préciser que dans notre public, on n'a pas que des étudiants, on a des jeunes et moins jeunes, et c'est important aussi. Et que tous les événements sont gratuits, des concerts aux tables rondes, en passant par les projections qui ont lieu donc au MK2 Quai de Seine, au cinéma Le Champeau, au cinéma Christine et au cinéma La Clé, tout ça c'est gratuit. Et voilà, donc nous on est très contents de pouvoir proposer ça aux étudiants dans tout Paris, parce que en fait les étudiants ne vont pas coller dans les universités, même si évidemment on privilégie aussi les campus avec pas mal de choses sur les campus universitaires comme les ateliers dont j'ai parlé et aussi des projections en parallèle.
Tu viens de le dire, tout est gratuit. Comment vous pouvez mettre en place cette gratuité et surtout pourquoi ça vous tient à cœur de le faire?
Nous on est très contents parce que on est un des rares festivals quand même à proposer un appel à films gratuit, c'est-à-dire que comme Lisa l'a dit tout à l'heure, les réalisateurs nous envoient leurs films gratuitement, donc ça c'est quand même bien. Et puis les événements sont gratuits parce que les facs nous font confiance. Ça fait 25 ans que le festival existe, on est reconnu par les universités, par le CROUS qui nous finance en grande partie, par la ville de Paris aussi, et donc nous on est très contents de cette confiance qu'ils nous accordent parce qu'ils savent qu'on est capable aujourd'hui de proposer une programmation de qualité, voire valoriser le monde étudiant, de pouvoir valoriser leur campus aussi. On fait des choses au centre culturel du CROUS, sur les campus universitaires, Sorbonne Nouvelle, Sorbonne Université et Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Donc voilà, nous, on sait aujourd'hui qu'ils nous font confiance et c'est même un prérequis pour eux qu'on propose des événements gratuits. Nous, on n'a pas l'ambition de faire de l'argent sur ces événements, bien au contraire. On veut vraiment que ce soit un espace de création, quoi.
On n'en a pas parlé encore, mais l'an dernier, pardon, vous avez organisé une projection à Lille. Est-ce que c'est quelque chose que vous voulez réitérer, exporter le festival ailleurs qu'à Paris.
Oui, c'est ça nous aime beaucoup de faire des projections hors de Paris et hors de France en général. Là, on a pour projet de faire une projection à Marseille normalement. Okay. Le projet va jusqu'au bout. Donc c'est quelque chose de très important pour nous parce que ces courts-métrages qu'on reçoit ne viennent pas que de cinéastes ou de réalisateurs ou réalisatrices parisiens. Donc c'est hyper important pour nous de faire des projections ailleurs et aussi de donner accès à des festivals, pas que dans des capitales en général, quoi, ou des grandes villes.
Eh bien, merci beaucoup Lisa et Maëlle d'avoir répondu à toutes ces questions. Je rappelle donc que Courte Échelle, c'est à Paris du 26 mai au 2 juin 2026. C'est donc gratuit et ouvert à tous et toutes. On peut de toute façon retrouver de plus en plus d'informations sur vos réseaux sociaux, @festivalcourteéchelle et sur votre site internet festival-courteéchelle.fr. Merci beaucoup à tous les deux.
Merci.
copine à moi qui m'a dit que tu t'appelais Andy. Andy, ça fait un moment que je te suis, Andy. Eh, tu viens chez moi? Ou alors on va chez toi? Allez, Andy, quoi. Oh, dis-moi oui. We'll be right back.
toujours dans l'amphi sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. On vient d'écouter Andy d'Erita Mitsuko. Et je le disais dans l'introduction, on parle aujourd'hui de Radiohead, un des groupes, les plus influents des 30 dernières années. Né au Royaume-Uni dans les années 80, ce groupe a réussi quelque chose d'assez rare dans l'histoire de la musique, évoluer constamment sans jamais perdre son identité. À chaque album, Radiohead a changé de direction, exploré de nouveaux sons et repoussé les limites du rock traditionnel. Mais Radiohead, ce n'est pas seulement un groupe de rock alternatif, c'est aussi une formation qui a marqué toute une génération grâce à ses textes profonds, son atmosphère mélancolique et son approche expérimentale de la musique. Leur influence dépasse largement le monde du rock, on la retrouve dans la musique électronique, la pop moderne et même le cinéma. Aujourd'hui, je vais donc parler un petit peu de l'histoire du groupe, de son évolution musicale, de ses albums, mais et aussi de l'impact qu'il a eu sur la musique contemporaine. L'histoire de Radiohead commence dans les années 80, dans la ville d'Abingdon, au sud de l'Angleterre. Les membres du groupe se rencontrent alors qu'ils sont encore au lycée. On retrouve Tom York au chant et à la guitare, John Greenwood à la guitare et au clavier, Colin Greenwood à la basse, Ed O'Brien à la guitare et au chœur, et enfin Philippe Soulway à la batterie. À leur début, le groupe s'appelle On a Friday, simplement parce qu'ils répètent ensemble le vendredi après les cours. Plus tard, ils changent de nom pour devenir donc Radiohead, un nom inspiré d'une chanson du groupe américain Talking Heads. Au début des années 90, Radiohead signe avec la maison de disques EMI et sort son premier album, Pablo Honey, en 93. Cet album contient notamment la chanson Creep, qui devient rapidement un immense succès international. Creep part du sentiment d'exclusion, du manque de confiance en soi et de la difficulté à trouver sa place. Beaucoup de jeunes se reconnaissent dans cette chanson, ce qui explique son énorme popularité. Pourtant, malgré ce succès, le groupe vit assez mal cette période. Les membres de Radiohead ont peur d'être considérés comme un groupe à succès d'un seul titre. Ils veulent montrer qu'ils sont capables d'aller beaucoup plus loin artistiquement. En 1995, Radiohead sort son deuxième album, The Bends. Cet album marque un tournant majeur dans leur carrière. Le groupe abandonne peu à peu le style grunge très présent dans Pablo Honey pour développer un son plus personnel et plus émotionnel. Les chansons deviennent plus travaillées, les textes plus profonds et les arrangements plus riches. Des morceaux comme High and Dry, Fake Plastic Trees ou encore Street Spirit montrent déjà le talent du groupe pour créer des ambiances mélancoliques et intenses. L'album parle beaucoup de l'isolement, de la société moderne et de la pression du monde contemporain. Tom York exprime souvent un sentiment d'angoisse face à la célébrité et à la société de consommation. Avec The Bends, Radiohead commence à être reconnu par la critique comme un groupe majeur du rock britannique. Beaucoup considèrent aujourd'hui que cet album est l'un des meilleurs albums de rock des années 90. En 1997, Radiohead sort l'album qui va définitivement changer son histoire, OK Computer. Cet album est souvent considéré comme l'un des plus grands albums de tous les temps. Pourquoi ? Parce qu'il réussit à mélanger des mélodies accessibles avec des thèmes complexes et une atmosphère très originale. Dans OK Computer, Radiohead parle d'un monde de plus en plus dominé par la technologie, la solitude, la vitesse et la déshumanisation. À la fin des années 90, ces sujets étaient déjà présents, mais aujourd'hui, beaucoup de personnes trouvent que l'album était presque visionnaire. Paranoid Android est particulièrement impressionnante. La chanson dure plus de 6 minutes, change plusieurs fois de rythme et mélange des passages calmes avec des moments beaucoup plus agressifs. Ce morceau montre à quel point Radiohead refuse les formats classiques de la musique commerciale. L'album reçoit un immense succès critique et commercial. Il gagne même un Grammy Award. À partir de ce moment-là, Radiohead devient l'un des groupes les plus importants du monde. Après l'énorme succès de OK Computer, beaucoup s'attendaient à ce que Radiohead continue dans la même direction, mais le groupe décide au contraire de prendre un risque énorme. En 2000, ils sortent Kid A, un album très différent de leur précédent. Cette fois, les guitares passent souvent au second plan. Radiohead s'inspire davantage de la musique électronique, du jazz expérimental et même de la musique contemporaine. Au début, beaucoup de fans sont surpris, voire déçus. Certains critiques ne comprennent pas immédiatement l'album. Pourtant, avec le temps, Kid A devient lui aussi considéré comme un chef-d'œuvre. Des morceaux comme Everything in the Right is in the Right Place ou Idiotech montrent un groupe qui cherche constamment à se réinventer. Ce qui est fascinant avec Radiohead, c'est justement cette capacité à ne jamais rester enfermé dans un style précis, là où beaucoup de groupes reproduisent la même formule pour continuer à vendre. Radiohead préfère expérimenter, même si cela peut déstabiliser une partie du public. Après Kid A, Radiohead continue d'explorer de nouveaux horizons musicaux. En 2001, ils sortent Amnesiac, un album enregistré pendant les mêmes sessions que Kid A. On y retrouve des influences jazz ou électroniques très fortes. Puis en 2003, arrive Hail to the Thief. Cet album est souvent vu comme plus politique. Thom Yorke exprime ses inquiétudes face à la guerre, au pouvoir et à la manipulation médiatique. Mais l'un des moments les plus marquants de leur carrière arrive en 2007 avec l'album In Rainbows. Pourquoi cet album est-il si important ? Parce que Radiohead décide de le sortir sur Internet avec un système totalement inédit. Les fans pouvaient payer le prix qu'ils voulaient pour télécharger l'album. À l'époque, cette décision fait énormément parler. Le groupe critique indirectement le fonctionnement traditionnel de l'industrie musicale et propose une nouvelle façon de distribuer la musique. Musicalement, In Rainbows est aussi un énorme succès. L'album mélange émotion, douceur et expérimentation. Décrire précisément le style de Radiohead n'est pas simple car le groupe a énormément évolué. Au départ, leur musique se rapproche du rock alternatif et du grunge. Mais progressivement, ils intègrent des éléments électroniques, du jazz, de la musique classique et même des sons expérimentaux. L'un des éléments les plus reconnaissables reste la voix de Thom Yorke. Son chant très émotionnel donne souvent une impression de fragilité et de tension. Les guitares jouent aussi un rôle essentiel. Johnny Greenwood est connu pour son approche très créative de la musique. Il utilise parfois des sons inhabituels, des effets électroniques et des compositions inspirées de la musique classique contemporaine. Les textes de Radiohead abordent souvent des thèmes sombres, l'anxiété, l'isolement, la société moderne, la technologie ou encore les crises existentielles. Mais malgré cette noirceur, la musique du groupe reste profondément humaine. Beaucoup de personnes se reconnaissent dans ces émotions et dans cette manière d'exprimer le malaise du monde moderne. L'influence du Radiohead sur la musique moderne est immense. De nombreux artistes actuels citent le groupe comme une référence majeure. On peut retrouver leur influence dans la pop alternative, l'électro ou encore le rock indépendant. Des artistes comme Coldplay, Muse, Billie Eilish ou encore James Blake ont tous été influencés d'une manière ou d'une autre par l'univers de Radiohead. Le groupe a aussi montré qu'il était possible d'avoir du succès tout en restant créatif et expérimental. Ils ont prouvé qu'un groupe populaire pouvait prendre des risques artistiques sans forcément suivre les règles du marché. Leur manière d'utiliser Internet et de distribuer leur musique a également changé la relation entre les artistes et leur public. Aujourd'hui encore, Radiohead reste un groupe très respecté, aussi bien par les critiques que par les musiciens et les fans. Finalement, Radiohead est bien plus qu'un simple groupe de rock britannique. C'est un groupe qui a constamment cherché à repousser les limites de la musique moderne. Depuis leur début jusqu'aux expérimentations électroniques de Kid A ou à leur album In Rainbows, ils ont toujours refusé de rester dans une zone de confort. Leur musique parle des peurs, des doutes et des questionnements du monde contemporain. C'est probablement pour cela qu'elle continue de toucher autant de personnes aujourd'hui. Radiohead a réussi quelque chose de rare, évoluer sans perdre son identité, exprimer sans devenir inaccessible et rester influent pendant plus de 3 décennies. Même après toutes ces années, le groupe reste une référence incontournable de la musique moderne et beaucoup considèrent encore leurs albums comme des œuvres majeures de l'histoire du rock. Je vous propose donc d'écouter un titre extrait de leur album In Rainbows. Voici Weird Fishes Arpeggi.
Too far.
C'est déjà la fin de cette émission. On vient d'écouter Radio Edit de Vétuste. Vous pourrez réécouter cette émission en rediffusion demain de 9h à 10h sur les ondes de Radio Alpa 107.3 FM Le Mans et sinon en podcast sur radioalpa.com ou sur votre plateforme préférée. Je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à demain.
Présenté par Elbarta.